Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est de la corruption. Si tu connais pas l'un ou l'autre, c'est mort. Tu n'auras rien. À Marseille. Il nous faut du boulot, il nous faut des formations, des trucs. Il n'y a rien à côté. Je comprends pourquoi le mec, il continue à dealer. Pour moi, personnellement, les jeunes qui dealent ou un truc, je leur en veux pas. Moi, c'est pas leur faute. Ils n'ont pas de sous. Comme moi, exemple, j'étais dealer déjà moi-même. J'ai une famille nombreuse. J'avais pas de père, j'étais 9 enfants. Et on fait quoi? Je vais chercher des sous. Je vais pas demander à ma mère. On paye déjà de juste le loyer, on mangeait de juste. Je me suis démerdé. Personnellement, je leur en veux pas aux jeunes qui font ça. Si chacun se démerde de ses propres moyens, c'est la merde, c'est la misère, on n'en peut plus. Ils nous ont tués.
Cela se passe à Marseille en 2012. Cette année-là, 24 règlements de compte, des armes de guerre en circulation, des policiers corrompus, des élus impliqués. Cela se passe à Marseille dans le 15e arrondissement et derrière cette violence, une autre qui s'enracine dans les quartiers nord de la ville, celle du chômage, de la pauvreté et de l'isolement. Comme tout territoire abandonné, le vide profite alors à l'économie souterraine et ici au trafic de drogue, dont l'organigramme n'a rien à envier à celui d'une multinationale, avec les mêmes écarts de salaire entre les gérants et les petites mains qui œuvrent sur le terrain et s'exposent à tous les risques. Cela se passe à Marseille, tout comme à Baltimore, si bien décrite par la géniale série télé, avec bien sûr une différence d'échelle, mais au fond les mêmes règles, vues et connues de tous les habitants des cités, qui voient chaque jour, en bas de certains immeubles, un jeune assis sur une chaise pour guetter, à l'entrée un vendeur, et le balai incessant des voitures des clients venus souvent des quartiers les plus nantis de la ville. Si l'on regroupe l'ensemble des bénéfices mensuels du trafic de stupéfiants dans les 25 cités de Marseille, on arrive, d'après le préfet de police Alain Gardère, à 1 250 000 euros par mois. Aujourd'hui, nous sommes avec Titi, qui a grandi dans le 15e arrondissement. Il a une trentaine d'années, il travaille maintenant dans la manutention, un job qu'il a trouvé grâce aux services musclés rendus par le passé à un élu. Mais avant d'être un homme de main, Titi a été patron d'un réseau de cannabis, puis de cocaïne à la Bricarde, une cité qui a eu son heure de gloire, si on peut dire, avant d'être peu à peu détrôné par sa voisine la Castellane depuis 5 ou 6 ans. Titi se rend aujourd'hui au parloir d'une prison marseillaise pour voir son frère qui purge une lourde peine pour trafic de stupéfiants. C'est jusqu'à 14h, c'est le premier volet d'une série sur la vie quotidienne à Marseille, une émission diffusée pour la première fois en 2012, à suivre demain et tout à l'heure à la fin de ce reportage.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai 6h10. Le dimanche, au lieu de me reposer tranquille, je vais aller au parloir à 1 heure de route pour aller voir mon frère. C'est que c'est dur lui aussi pour nous dehors. Hein, d'y aller, laisser mes enfants, tout ça. Même s'il voit pas ma détresse dans le parloir, il sait que c'est dur pour moi.
Ça fait combien de temps qu'il y est?
Là, ça fait 2 ans. Et il a pris 5 ans. Bon, encore 3 ans de parloir. Mais bon, j'espère qu'il y aura des remises de peine. Hein. Normalement, moi, c'est bon, mais bon. Après, il faut que c'est un carreau aussi dedans. Et là, je suis en train de préparer son shit. Je veux du cellophane autour du shit pour le couvrir. Moi, quand tu le fais rentrer, il est couvert.
Parce qu'une fois que vous lui aurez passé au parloir, ça va être à lui de devoir le cacher.
Voilà, après lui, c'est des merdes, lui. Touche du bois. Tu vas prendre porter la poisse aujourd'hui.
Est-ce qu'il a besoin de vêtements ou pas?
Non. Parce que le vêtement, il se démerde, lui, avec des détenus là-bas qui lui lavent les habits. Mais en échange, avec du shit ou. Il n'y a rien gratuit. Hein. Le shit, c'est de l'or.
Et c'est quoi ces photos?
Ça, c'est les photos de tous mes neveux, de mes enfants, comme ça. qui est malheureux ou les trucs qui passent aux enfants. Allez, on y va, parce qu'après...
On va être en retard.
Je vais une fois tous les 15 jours. Et il faut s'organiser, il faut... C'est dur. Mais voilà, c'est mon frère, je ne peux pas le laisser tomber. Hein. Je pense que si moi je serais dans le même cas que lui, il serait derrière moi. Il est rentré pour affaires stupéfiants de Vendée.
Vous inquiétez pour votre frère ?
Oui, parce qu'il a 38 ans, il veut se réinsérer et tout, il a demandé à travailler, on l'a refusé. Ils l'ont mis dans un bâtiment où il n'y a que des jeunes de 20 et 25 ans qui n'ont pas la même mentalité. Des fois, il me dit j'en peux plus, oh, nanani, dès que je sors, je vais tout niquer, nanani. Bon, je le comprends, moi, je le montre un peu le moral et tout. Et là, ça fait pas longtemps, il y a 15 jours, là, il s'est disputé avec le surveillant chef et il l'a mis en isolement parce qu'il a insulté. Bon, c'est normal, le mec, il veut s'en sortir et tout, on le fait revenir en arrière.
Et vous aviez combien de frères qui travaillaient dans les réseaux ?
3. C'était 9 frères et sœurs, c'était dur, c'était... J'ai presque envie de vous dire, celui qui venait pas à l'heure du manger, à l'heure, il mangeait pas. Hein. On était 9. Et celui qui venait les 2 derniers, il mangeait pas. Hein. À l'ancienne, après on évolue, on grandit, on veut des chaussures de marque. Imaginez-vous, 9 fois, 150 euros la paire de baskets. On s'en sort plus là, voilà. J'ai jamais dit à ma mère d'aller m'acheter une paire de pompes ou de trucs, je me démerdais tout seul. Hein. Mon père, il travaillait et j'étais minot, je ne me rappelle plus. Quand ils sont divorcés, ils sont séparés, j'avais 10 ans, 9 ans. C'était mon père, parce que voilà, c'était mon père, mais après, quand j'avais des problèmes, tout ça, j'étais tout le temps été seul.
Et votre mère, elle faisait quoi?
Elle a fait des petits boulots de nettoyage, voilà, et là, elle est à la retraite, elle est à la maison.
Vous pourriez me décrire un peu ce qu'on voit là?
Oh, c'est comme un conte de fées. On a une belle vue au bord de la mer, mais bon, quand on tourne la tête, on voit le béton. Et quand on rentre un peu plus au milieu de la cité, on voit que c'est vraiment sale. Sale, sale.
Il y a des cartons par terre.
Voilà.
On domine la cité, hein.
Voilà, ouais.
On voit les bâtiments et devant nous, il y a des installations métalliques.
Ouais, soi-disant c'est de l'art. Ça a coûté 75 000 euros.
75 000 euros et en même temps on surplombe un petit talus de pierre où il y a plein de détritus. Mais ici c'est la décharge.
Non, c'est pas une décharge. C'est, voilà, c'est que la cité reste à l'abandon. Aucune société de nettoyage.
Et là il y a donc la présentation sur un petit panneau de l'œuvre qui s'appelle L'Envol.
L'Envol. Aluminium et inox. Donc ça doit bien se vendre, non? C'est vrai, va voir, tu viens avec une cisaille là, tu coupes tout et tu... Attends.
La cité des curiosités, résidence d'artistes 2011.
C'est devenu la cité des curiosités, il y a de l'art de partout et nous on galère. Non. S'il y a des quarts de touristes qui viennent ici, tu verras ce qu'ils vont leur faire, hein, je te le dis. Hein. On n'est pas des animaux. Hein. Moi je suis né dans cette cité, moi. Depuis petit je suis là, j'ai vu grandir toutes les générations. Là. Il n'y avait pas de goudron, on avait un grand espace vert à la place du Grand Littoral.
Le Grand Littoral, c'est en fait le grand centre commercial qui est à côté.
Qui est à côté. J'étais jeune encore quand ils l'ont construit. Bon, j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça va, peut-être il y aura de l'embauche quand j'aurai 18 ans, 20 ans, tout ça. En plus, il y a une loi qui est passée. Normalement, on est prioritaire pour travailler dans ce Grand Littoral. Et ben, il n'y a rien pour les gens de la cité. Y a rien, c'est que des gens de l'extérieur, de Aix-en-Provence. Ici, c'est comme si c'était la jungle. C'est chacun se démerde de ses propres moyens. C'est la merde, c'est la misère, on n'en peut plus. Pour avoir un logement, pour avoir un enfant à la crèche, si tu ne connais pas l'un ou l'autre, c'est mort, tu n'auras rien. C'est de la corruption. Ils nous ont tués.
C'est quoi, c'est les immeubles qui sont là?
D'une cité.
La Castellane ?
Oui, c'est ça. La Castellane, c'est une puissance, c'est...
Pour la drogue.
Voilà, ouais, pour la drogue, ouais, pour la drogue. Il n'y a que ça pour nous. Il n'y a que ça. On s'en sort comme on peut. C'est malheureux, mais il n'y a rien d'autre. On va faire comment pour manger, pour se nourrir, pour... voilà. Moi, j'avais 16 ans. En fait, j'étais dans le milieu parce que j'avais mon frère aussi qui dealait. Je voyais tout ce qui se passait dans la cité, tout ça. Après, voilà, j'ai grandi. J'allais plus à l'école et je me suis dit, vu que je suis dans la cité tous les jours, il vaut mieux que je prenne mon shit et je me mette devant un bloc et dealer. Au moins, je ne resterai pas pour rien. Là, on est devant le bâtiment où je dealais.
Devant cette barre d'immeuble.
Voilà, celle-là. Et il y a le poteau que je suis resté de midi à minuit. Moi, je me rappelle mes premiers jours que j'avais dealé. J'étais resté sur le poteau du bâtiment de midi à minuit. J'avais fait 30 euros la journée. Et je me faisais juste pour manger, m'acheter des habits. Et... pendant plusieurs semaines. Jusqu'à que bon, un peu tout le monde le sache qu'il y a un réseau, tout ça. Voilà. C'est les souvenirs là, qui me remontent. Hein. Il faut avoir aussi le culot d'ouvrir un réseau, de... je sais pas, il faut avoir la tête sur les épaules aussi pour ouvrir un réseau. C'est pas n'importe quoi, c'est un truc, tu le fais sérieux. Tu es là tous les jours à la même heure. Je suis pas sorti de la cité pendant au moins 3 ans, 2 ans. Quand je vois après des collègues et tout, ils me disent oh, tu es sorti de prison. Je dis non, j'étais pas en prison. J'étais devant mon bloc en train de dealer, c'est tout. Mais je le vendais, mais je le fumais pas et ni je sniffais.
Vous auriez pu trouver un emploi aussi ?
Non, 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 franchement, non. J'étais pas déjà pour avoir un boulot, j'étais pas motivé. Et de voir que certaines personnes avec des diplômes qui galéraient, alors moi, que j'avais rien du tout, je suis sorti de l'école avant l'âge, et c'était pas ma destinée. Il fallait que je deal. Ce qui a été bien pour ma part, c'est que je me suis mis une barrière de le faire un certain temps, juste pour le temps de trouver un travail. Voilà, je vais pas faire ça toute ma vie. C'est une barre de 5-6 ans. Et voilà. On savait à quelle heure il passait tous les jours. C'était une ronde le matin et une ronde l'après-midi. Le matin c'était 11h et le soir c'était 5h20 exactement. Ça fait qu'à 5h20 je montais chez moi me reposer, mais j'ai laissé quelqu'un en bas pour qu'il surveille s'il y a des clients, de leur dire de repasser, ou sinon j'allais boire un coup. Voilà. Après un certain moment j'en avais marre, tu vois. Je mettais quelqu'un et je le payais 40 euros par jour pour vendre. Après, les flics ils savaient que c'était moi le responsable du réseau. Ils l'ont dit de dire que c'était moi parce qu'ils n'avaient aucune preuve. Et le jeune, il a refusé de me balancer. Il est rentré en prison, il a fait 6 mois et toutes les semaines, je lui ai envoyé 100 euros de mandat pendant 6 mois. Après, voilà, on est obligé de faire avec. Hein. On va pas s'arrêter de vivre ou arrêter de dealer parce que ton dealer s'est fait arrêter. Tu es obligé de faire tourner le commerce. Et ce jour-là, 2 jours après, j'étais parti en Tunisie pour me reposer un peu parce que j'étais vraiment dans un état, je dormais pas, j'avais peur. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à me rendre compte que tu allais un peu trop loin, que s'il y a les flics qui te suivent, qui surécoutent, qui te surveillent, je préférais arrêter et faire la coque. Parce que en faisant la coque, j'étais pas dans la cité, j'étais un peu de partout. J'avais une clientèle de coque, je la vendais pas à n'importe qui. Voilà, je pouvais être dans le centre-ville, ils avaient tous mon numéro. Dès qu'ils avaient besoin de quoi que ce soit, je déboulais et voilà. J'emmenais la marchandise. Et j'avais une clientèle qui était bien aisée quand même. Hein. Parce qu'une fois, j'ai une cliente qui m'a invité chez elle, dans une maison, et j'ai halluciné. J'ai vu cette maison que chez Scarface. Du beau milieu, ça. Je faisais 600 euros par jour, 800 euros par jour. De l'argent, je m'en foutais, je savais que ça venait, ça sortait l'argent. J'allais manger au restaurant tous les midis, tous les soirs, avec l'argent des trucs, j'invitais les collègues et tout. J'avais au moins 3-4 voitures, je leur passais, voilà. J'ai même payé des fois des loyers, fait des courses à certaines familles dans la cité. J'ai fait aussi des trucs associatifs dans la cité. J'ai aidé des jeunes, j'ai fait un club de foot. Quand il y avait un vol dans la cité, il s'est passé quelque chose, on demandait que j'intervienne. Voilà, on avait l'argent, on donnait, on faisait profiter les autres. C'était jamais eux qui payaient. Tous les week-ends, ils allaient danser. Quand ils allaient sortir, je les voyais sortir comme ça. Ils prenaient des bouteilles. En plus, le lendemain, ils racontaient leur soirée. Et la plupart, c'était des bagarres. C'était vraiment de l'argent gaspillé pour moi. Moi, j'étais simple. Moi. Je suis pas un mec de la night. Boîte de nuit, sortir, faire la fête, tout ça. Moi, j'avais un but. Hein, voilà, c'était faire ça pendant une période, mettre l'argent de côté pour démarrer ma vie de couple. Partir d'un bon pied, sinon ça sert à rien que d'avoir fait ça. Quand il était minuit, il fallait fermer le réseau, je montais directement me coucher pour me relever le lendemain. Je crois que ce maudit jour soit arrivé. En 2005, quand les flics sont venus me chercher, j'en ai bavé, je peux en voir. Je l'ai mal vécu cette période-là.
Vous avez fait combien de mois de prison ?
6 mois et demi. Et voilà.
C'était quoi le plus dur en prison quand vous rentrez en prison ?
La première fois, j'hallucinais, j'y croyais pas. Je me rappelle, c'était un vendredi soir, j'étais rentré. Je me lève, c'était samedi matin, je voyais les filles barbelées, la gamelle, c'était sale. J'hallucinais, je me suis mis deux coups dans la joue comme ça pour vous dire, je rêve, c'est pas possible, je suis en prison. Tu es obligé de prendre le rythme, après c'est ça ou tu pètes un plomb. Je me suis dit, j'ai pris le rythme, j'ai fait ma prison, j'ai fait mon sport, voilà. Et après, voilà, dès que je suis sorti de prison, je commençais à travailler, à être dans le droit chemin. Je me suis marié en 2011. Je suis parti de la cité. Heureusement que je suis sorti de tout ça. J'habite dans un coin, comme on dit, où il n'y a que des blancs. Mais mon ascenseur, elle parle, elle me dit bonjour. J'ai halluciné quand je l'ai visité, cet appartement. C'était incroyable. Moi, je travaille. Bon, moi, je touche pas ce que je voudrais, mais bon.
Vous avez un salaire de combien, en moyenne ?
600 euros. Mais je travaille des demi-journées. Je suis obligé de faire avec, j'ai des enfants. 9 mois et 2 ans et demi. Je peux plus me permettre de faire ce que je faisais avant, sinon je le ferai encore. Parce que c'est vraiment dur, là. Vraiment, c'est impossible. Même avec les aides, tout ça, patati, patata.
Vous avez un loyer de combien ?
De 620 euros. Ma femme, elle travaille hôtesse d'accueil et dans un magasin. 800-900 euros, la touche. Moi, personnellement, je sors même pas, je vais même pas boire un coup, rien du tout. Tu fais plus rien, là, vraiment, tu comptes, là. Ce que tu achètes, ce que tu achètes pas. C'est dur de plus avoir d'argent, d'être un vrai citoyen. Un grand monsieur de la communauté comorienne que certains élus le convoitent quand il y a les élections.
C'est pas vrai.
Arrête, attends.
Combien de sacs de riz t'ont donné?
Ah non, absolument pas.
Dis la vérité.
Je vais pas dire non, peut-être il y en a d'autres qui souffrent comme ça, mais pour moi non.
Et toi, qu'est-ce que tu penses de la politique de Marseille?
Moi je remercie monsieur Godin. Hein? Parce que quand même, Marseille, il a changé de visage. C'est bien.
Ouais, mais bon, changer de visage...
Je sais que M. le maire, il fait son boulot. Quand tu vois ce qu'il fait au centre, d'abord au centre...
Mais nous, on s'en fout du centre. C'est pas nous qui en profitent. C'est pas nous qui en profitent. C'est les gens de l'extérieur. Il fait son boulot. Il a fait quoi pour toi, personnellement, pour le quartier Nord?
Non, vous parlez du Nord? Pour l'instant, non. Ça va venir.
Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans.
Non, mais il faut être patient dans la vie aussi. Ça va venir.
Vous voyez leur génération? Ils sont calmes, même si on leur fait du mal, c'est pas grave, il est gentil.
On le sent, mais ça va venir.
Voilà, vous voyez
ça va venir. Et c'est pas un clin d'œil que tu vas changer sur Marseille.
Et ça, les élus.
Ouais, il devait y avoir quelque chose depuis un moment.
Il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de métro.
À nos cités, non, c'est vrai, on est les oubliés.
Voilà, on est les oubliés de Marseille. Et, on se verra pour Oh, moi, je suis là.
On
moi.
Se verra, toi, ça. Ouais, je ferai venir pour 2014 les élus, comme ça, on verra.
Sûr, on parle ensemble. Dès qu'ils viennent, il vaut mieux qu'on en profite. Hein.
Voilà.
On dit ce qu'on veut, ou sinon, tu viens pas dans la cité.
Voilà. Ça, si tu les gères, qu'est-ce qu'ils se mettent, on s'appelle
plus. Ça va. Allez, ciao. Un politique, quand il rentre dans les cités, il sait à qui s'adresser déjà. Au plus fort, à qui que tout le monde écoute, qui va lui rapporter des voix.
Vous, on est venu vous voir, vous ?
Voilà, on est venu me voir. Parce que j'étais influent, parce que bon, j'avais un réseau de drogue, c'est ça. Et il le savait même. Tout le monde m'écoutait quand je disais une chose. Quand il y a des élections, tu restes devant le bureau de vote et chaque personne qui passe, bon, vu que je connaissais tout le monde, ils votaient tous la même personne parce qu'on leur disait de voter. Et en contrepartie, l'élu me donnait ce que je voulais. On m'a donné des appartements pour des collègues, tout ce que je demandais, je l'avais. Travail, place de l'OM, place de boxe, tout ça, tout. C'était mon gagne-pain, c'était, pour moi c'était tout à fait normal. Hein. On était intouchables, on était avec un élu. À Marseille, si tu connais pas un élu, tu rien, tu la merde. Même si tu as des problèmes avec la police, tout ça, tu faisais intervenir l'élu.
Mais votre travail, il consistait à quoi ?
À coller les affiches, à faire venir les jeunes y aller dans les manifs avec lui, de le soutenir, de s'afficher avec lui. À faire peur les gens, voilà, quand il y a des problèmes, d'être là. On peut mettre des pressions à une personne, de le taper, de... On m'a demandé de tabasser des gens, j'ai mis des claques, parce qu'après, voilà, je travaillais en échange, j'ai eu du boulot, Après, on rentre dans cet engrenage-là, après, voilà. Moi, j'avais un but dans la tête, c'était pour un boulot. Hein. Moi, je voulais essayer des CDI, moi. Mais c'est des fachos qui vous caressent. Après, dès qu'ils n'ont plus besoin de vous, ils vous calculent plus, Et dès qu'il y a les élections, ils vous mangent la main. Attendez, c'est bon. C'est un truc de voyou, pour moi. C'était pas un truc d'élu, c'est un voyou en costume. Ça sera tout le temps pareil hein, à Marseille. Hein. Bon, je regrette tout ce qui s'est passé, tu vois, de gilet et tout ça. Mais j'ai des enfants et tout maintenant.
Quoi ?
C'est bizarre de faire le bilan. Hein. Je me dis qu'on est dans un pays comme la France, qu'on est obligé de faire des conneries pour... pas pour vivre. C'est de la survie qu'on fait. C'est une honte, je trouve, d'en arriver là. Allô ? Allô ? Ah, comment tu vas, gros ? Bien ou quoi ? Il va bien, mon frère ? Ouais, comme d'habitude, il veut un paquet de cigarettes, en plus. Et toi, ça va ? C'est à toi qu'il faut dire. Moi, je suis en liberté, gros. C'est toi qui es dedans. Hein. tu es sur la fée ou quoi ? Eh ben voilà, fais pas de conneries. D'un moment, tu sors tranquille. Hein, gros ? Bon, j'espère qu'on se verra dehors, hein, n'appelle plus. Hein. Allez gros, bonne journée. Hein. Allez, ciao, merci. Ciao. Tu vois, le mec de la prison, il m'a appelé. Pour mon frère. C'est un mec que je connais, il est de la cité d'en bas et ça fait au moins 10 ans qu'il y est. C'est fou. Hein. Il a appelé parce que dimanche il a le parloir et c'était pour me faire appeler, de l'amener les cigarettes, du shit et voilà.
Allez. De partout.
Voilà. Des photos, un pack de cigarettes, le shit, et c'est bon.
On arrive devant l'accueil.
Là, j'attends mon tour pour donner ma pièce d'identité, pour dire que je suis présent et... On va voir.
Bonjour, vous pouvez me dire à quelle heure c'est le parloir, s'il vous plaît, en même temps? Merci. Merci.
Ah là 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 là.
Le box, il fait combien de...
C'est vraiment petit. Des fois, c'est ça, là. Ah ouais, c'est écœurant, des fois. Parfois, il y a du pipi, ça, ça la merde, c'est... Pas tout le temps, hein. Il y a des chaises et des tables. Il doit se préparer. Il doit être dans la douche ou... Je sais pas. Ah là 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 là.
Vous êtes un peu impatient?
Eh ouais. Je suis pas bien. J'ai peur. Je sais pas si c'est moi qui me fais trop de trucs dans la tête ou... Gamberge trop. Mais bon. On est obligé de faire avec, hein. Il faut que j'enlève l'alu du paquet de cigarettes.
L'alu parce que ça sonne.
Sinon.
Parce qu'on n'a pas le droit de faire passer des paquets de cigarettes non plus.
Non.
On n'a pas le droit.
Je vais les cacher. Je vais les mettre dans la poche ou. Voilà, je sais pas, voilà.
Faut cacher les cigarettes et le morceau de cannabis.
Dans la chaussette.
Et après, c'est à votre frère de le cacher. Non.
Il le cache, je sais pas où il le cache. Je sais pas, peut-être qu'il le fait rentrer par son collègue, ou il le met dans la bouffe, ou il le met dans la caleçon, je sais pas.
Vous avez peur ou pas?
Ouais, bien sûr, surtout pour lui, parce qu'il est là-dedans. Moi, je me fais choper, moi je suis en liberté. Les flics, ils viennent me chercher, voilà. Ils vont me supprimer le parloir. Le plus, c'est pour lui, déjà qu'il a pris 5 ans, il se fait choper avec un gros de la stupe. Ça va lui faire du cachot, ça va lui lever des grâces. Mais bon, voilà, il faut être le plus discret au maximum.
Allez.
Moi, c'est bientôt, là. Vous nous appelez ? Et voilà.
Bon, je vous laisse y aller.
Au revoir et à la prochaine.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Titi sur le chemin de la prison. Un reportage de Pascal Pascariello, réalisé par Emmanuel Geoffroy, avec un coup de main d'Éric Lancien. Reportage diffusé pour la première fois le 18 décembre 2012. Sachez que depuis la première diffusion donc de cette émission pour Titi, rien n'a beaucoup changé. Il travaille toujours dans la manutention, mais il s'est séparé de son épouse. Son frère, lui, est sorti de prison à la fin de l'année 2015. Il vit depuis chez sa mère et il recherche un emploi. Demain dans Les Pieds sur Terre, nous serons encore à Marseille avec Pascal Pascariello et des anciens trafiquants de drogue, le deal et les dealers, comment en sortir.